Et bonsoir à tous et bienvenue en direct du Centre d'animation Saint-Pierre comme les deuxièmes mardis de chaque mois. Et pour cette émission spécialement, on vous souhaite à tous une bonne année 2017.
Bonne année !
Bonne année !
Comme diraient nos amis anglophones, Happy New Year. Voilà, ça, on le fait chaque année, hein, on n'y coupe pas. Alors, pour la première émission de l'année, on vous a prévu un programme très condensé. On ne sait pas si on va tenir ça en une heure parce qu'on a plein de choses à dire. On commencera par vous parler de l'agenda, les trucs que l'on va faire ou qui ont été faits voilà, tout le mois dernier et les trucs qu'on fera dans le mois qui vient. On va vous parler d'Ubuntu Touch parce qu'on a un utilisateur d'Ubuntu Touch qui va nous faire un petit peu un retour d'expérience. On va vous parler du Wikimock numéro 2, un mock pour apprendre à contribuer à Wikipédia. On va vous parler d'AT&T, du zéro rating, de la neutralité du net et de notre nouveau président des États-Unis. Je dis notre parce qu'il est aussi un peu le président du monde façon World Company. Je parle bien sûr de Donald Trump. On vous parlera aussi de jeux vidéo sous Linux, bien entendu, parce qu'on ne peut pas passer une Radio Girol sans parler de jeux vidéo sous Linux. Voilà, autour de la table, on a Isa. Bonsoir Isa.
Bonsoir.
On a Simage. Bonsoir Simage.
Bonsoir.
On a PGP, nouveau venu à Radio Girol. Bonsoir PGP.
Bonsoir.
Et on a Mathis qui signe son grand retour à Radio Girol.
Bonsoir.
En fait, tu n'étais pas là juste les deux dernières fois ou la dernière fois.
Oh, je me dis depuis juin, je crois.
Ouais, c'est ça. Hein. Oui, voilà. Alors, on va commencer par l'agenda. Alors, côté agenda, on a pas mal de choses à annoncer, mais on a aussi un retour à faire sur l'apéro. Non, c'était pas l'apéro du libre, c'était l'atelier Linux au petit grain. Voilà. Alors, qui a un retour à faire sur...
Il n'y a que moi qui ai été ?
Ben, apparemment, oui.
D'accord.
Autour de la table, oui, semble-t-il.
D'accord. Bon, en même temps, j'y ai été, je crois, la première fois où ils l'ont fait. Donc, ça remonte à presque un an, je pense. Et donc, j'ai pas grand chose à dire, mis à part que c'est super. On a un nouveau groupe qui se monte, plus ou moins, qui essaye de faire des soirées régulières avec des install parties. C'est à peu près une fois par mois au Petit Grain, donc qui est le café associatif, pardon, Place d'Ormois, pas très loin de Barbé, pour ceux qui connaissent Barbé. Voilà, donc le prochain, c'est le 26 janvier, en même temps qu'un autre événement. Mais on s'est mal goupillé avec l'organisateur.
On parlera de l'autre événement.
Enfin, c'est moi qui suis pas très douée avec les dates, mais c'est pas grave. Enfin bon. Donc eux, c'est plutôt install, voilà, voire découverte quand même de Linux pour les curieux.
Alors, un autre atelier prévu chez Girol, parce que oui, on fait aussi des ateliers, ça nous arrive. C'est la semaine prochaine, ça sera animé par Maxime, et c'est le jeu Geekonomicus. On apprendra à manipuler la monnaie libre et à parler de création monétaire, que ce soit avec des monnaies libres ou avec des monnaies non libres. Je pense qu'on devrait apprendre dans ce genre d'atelier à comment les banques nous enflent bien profond. Voilà, mais ça, c'est un autre sujet. On attend Maxime qui devrait arriver d'un moment à l'autre et du coup, on vous reparlera de cet atelier un peu plus tard. Sinon, n'hésitez pas à venir mardi prochain de 18h30 à 21h30 parce que du coup, l'atelier Girol sera un peu décalé. Autre événement à venir le 26 janvier, toujours, effectivement, même temps que les soirées Linux au Petit Grain, c'est l'apéro du libre.
Alors, l'apéro du libre, c'est juste un petit moment d'échange. Enfin, un petit moment, ça peut être long. C'est entre 20h et 23h. Enfin, entre 20h et 23h, la salle nous est réservée, entre guillemets, pour les curieux du logiciel libre. Et après, bah, le BB25, donc, qui accueille l'événement, voire qui organise l'événement, fait ses soirées comme d'habitude. Je me suis prise un peu tout à l'envers, donc je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Donc, l'apéro du libre, c'est un moment d'échange convivial où on peut papoter tout en buvant des bières, du coca ou d'autres marques que j'aurais pas dû citer à la radio. Et voilà, discuter autour des logiciels libres, des cultures libres. Et a priori, on va avoir pas mal de membres des différents groupes bordelais, donc des gens de la Bulle, d'Aquilnet, de Girol. De la Cubal, le groupe Wikimedia donc de Bordeaux. J'oublie de la Bix. Je ne sais plus si j'oublie quelqu'un d'autre. Je l'ai fait dans le désordre encore une fois, donc ça ne m'aide pas.
Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut voir tous les participants du coup et...
Alors, pas encore, non, je n'ai pas encore fait la com, mais ça apparaîtra sur l'agenda du libre. Et sur Diaspora, bien sûr, je l'enverrai sur la page Diaspora de Girol. Sur le meet-up, peut-être de Girol, on pourra aussi dire qu'on y est et que voilà. Des précisions, qu'est-ce qu'il faut dire ? Que le BB25 est un bar associatif, donc il faut payer l'adhésion à l'année, par contre, au bar associatif, donc c'est 5 euros à l'année. Après, on a le droit de rentrer sortir comme on veut. Enfin, de toute façon, 5 euros, c'est pour pouvoir consommer des boissons, puisque c'est un bar associatif. Je me répète. Aidez-moi, les gars.
Alors, et ça, c'est le 26 janvier.
À 20h.
À 20h, qui est voilà. Un jeudi, me semble-t-il.
C'est un jeudi. Et le B25, c'est rue Bouquière. Pour ceux qui connaissent Bordeaux-Centre, pas très loin de la Grosse Cloche, si on veut, ou de la place Fernand-Lafargue.
Voilà, c'est la rue qui part de Fernand-Lafargue et qui va vers le cours Victor Hugo.
Voilà.
Alors, autre chose, un méga café privé le 28. Alors,
vie privée.
Vie privée, pardon.
Méga café, vie privée.
Méga café, vie privée. Et clé privée aussi, on en discutera de clé privée lors de ce café vie privée. Et ça se passe le 28 janvier.
Alors, on a été contacté par une association parisienne. Le collectif Café Vie Privée, Crypto Party, chiffre aux fêtes parisiens. Donc, le 28 janvier, c'est la journée de protection des données. Et ils ont eu l'idée d'organiser des cafés, plein de cafés vie privée un peu partout en France pour l'occasion. Donc, ils nous ont contactés pour essayer d'en organiser un à Bordeaux. Et on est en train de le mettre en place. Donc, pour l'instant, Yael Labix qui est dedans, Akilnet qui sera là aussi. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. PGP, tu as des précisions a priori?
Alors, a priori, ça devrait démarrer vers 14h. On devrait se réunir à la Fabrique Pola. On devrait se réunir à la Fabrique Pola à partir de 14h. Et les gens sont invités à venir avec leurs petits équipements, ordinateurs, surtout ordinateurs portables, pour qu'on les aide un peu à toucher leurs premiers outils de chiffrement. Voilà. Donc, on va leur expliquer pourquoi d'abord, quel est l'intérêt de cette chose. Et c'est étrange pour des gens qui n'ont rien à se reprocher. Et voilà. Et donc, ensuite, une fois qu'on leur aura expliqué notre point de vue sur la question, on leur proposera d'installer quelques premiers outils.
Est-ce que vous allez discuter de la brique Internet ?
Mais oui, on va discuter de la brique Internet, puisque avec Akilenet, régulièrement, on passe des commandes groupées pour permettre aux gens d'en avoir et on fait des petites installs parties de briques brique Internet.
Pardon. Voilà, parce que il y en a quelques-uns qui se sont équipés chez Girol et on aime la brique Internet.
Oui, alors, ça tombe bien, parce que moi, j'avais une question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Est-ce qu'il y aura un autre atelier, la brique, incessamment sous peu ?
Alors, il devrait y en avoir, mais je ne sais pas exactement quand.
Flûte, alors.
Après, il suffit de demander à Kilonet sur la liste publique. Quand il y a des demandes, on essaie de répondre au plus vite.
Ok. Il y en a une.
Voilà, sachant qu'il y a aussi, on a du coup un peu d'expérience chez Girol sur ce domaine-là. Il y a une brique, d'ailleurs, je l'ai toujours avec moi. On peut en faire la démonstration et voilà.
On veut l'atelier et la brique.
Et la brique, les deux. Ah ben ça, la brique, il faut voir avec Akilonet. J'allais dire avec le Labix, la brique, mais non, c'est Akilonet.
Ah, si c'est pour les commandes de briques, il faut qu'on en refasse une. On est pillé à chaque fois, voilà.
Ok. Voilà.
À noter que la brique, c'est du matériel open hardware. C'est pour ça que ce n'est pas un Raspberry Pi, c'est dans une carte Olimex Lime 2 qui est open hardware.
C'est ça.
Voilà, c'est à peu près tout pour l'agenda. Sinon, comme d'habitude, nous, on est là tous les mardis de 18h30 à 20h30 et vous pouvez venir nous voir, même quand on est à la radio. Vous pouvez même, de la même façon que PGP, venir discuter avec nous de plein de choses libres et sympas. En attendant, on va s'écouter un petit morceau de musique sous licence Art Libre. C'est assez rare pour le souligner quand même. On a beaucoup de Creative Commons, rarement des trucs en art libre. J'espère que je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y a beaucoup de morceaux ce soir qui seront en art libre. Ça s'appelle Prince Ringard, le bal des suicidés. Voilà, c'est sur Radio Girol.
Et c'est une dédicace à El Caracol.
Girol Radio Station.
Ça pue la mort, justice de merde pour les paumés. Dans tes prisons ou dans encore, en attendant d'être crucifié. Dans tes prisons de la République, en tuant, viol et en torture. En attendant l'instant critique, la pendaison pour les gravures. C'est ta justice qui me fait gerber quand j'entasse la viande humaine. Une cellule de 9 mètres carrés pour les tolards que l'on enchaîne. Les politiques sont des ordures. À la télé tu en fais des tonnes. Pour tes bobos, pour ta culture. Et moi je vous crache à la gueule. Au nom de mes frères prisonniers. Votre Élysée je le dégueule. Je pisse sur vos maisons d'arrêt. Les droits de l'homme sont obsolètes. Dans cette France de nazillons. On tire à vue sur le squelette. C'est la patrie
du roi des cons. Au nom des cons qui vont crever, ta Marseillaise, on la dégueule. Au nom de la fraternité, la faire sucer par les banquiers. En attendant tes potes fascistes, t'es qu'une ordure, un enfoiré. À sa camère, un sarkozyste. Et moi je te crache à la gueule, à toi, à tous tes ministrés. Et ta justice, je la dégueule, en attendant la liberté. Ouais, frère, tous les paumés, on mettra le feu à la nation. Ce sera le bal des suicidés pour ceux qui se pendent dans tes prisons. Et moi je te crache à la gueule, à toi, à tous tes ministres. Et ta justice je la dégueule en attendant la liberté. Avec mes frères, tous les paumés, on mettra le feu à la nation. Ce sera le bal des suicidés pour ceux qui se pendent dans tes prisons.
Et voilà, chez Girol, on diffuse les morceaux en entier, comme d'habitude. Nous sommes de retour et nous allons reparler de l'agenda. Alors, on va faire une petite entorse, mais comme je vous le disais, Maxime n'a pas pu se libérer avant. Et il est là, et il va nous parler du jeu Geekonomicus, qui aura lieu la semaine prochaine, le 17, à partir de 18h30 jusqu'à 21h, 21h30, au centre d'animation Saint-Pierre, là, au QG de Girol et de sa radio. Bonsoir, Maxime.
Oui, bonjour à tous.
Alors, en quoi va consister le jeu Geekonomicus ?
Alors c'est Geekonomicus.
Geekonomicus, voilà, autant pour moi.
Il n'y a pas de mal. C'est un jeu libre pour les personnes qui connaissent les significations. Et si vous voulez en savoir plus sur ce jeu libre, il faudra venir mardi 17. Ce sera difficile de rentrer dans les détails de suite à la radio. Mais juste pour vous expliquer un peu quand même le fonctionnement de ce jeu. C'est un jeu qui permet de simuler la création monétaire, de simuler l'économie. Et de tester sur une durée de vie de 80 ans l'incidence de notre modèle économique. Donc il y a une première session de jeu qui va se faire avec l'argent dette, l'argent des euros, des dollars, la création monétaire par les banques. Et ensuite une autre simulation sur la monnaie libre, la monnaie avec un dividende universel, où à chaque tour, enfin je vous expliquerai les détails le mardi 17, où à chaque tour il y aura une création monétaire et une disparition monétaire pour voir un peu l'incidence en fait sur les échanges de cartes que vous allez pouvoir faire avec les autres joueurs sur tout ce jeu. Et donc du coup, par contre, il faut un minimum de 10 joueurs, un maximum de 20. Donc du coup, on a besoin de savoir qui vient, au moins le mail, le nom, à la limite, c'est pas grave, on vous accueillera avec plaisir. Mais au moins le mail, de savoir si le jeu est annulé, de pouvoir prévenir les gens, et puis s'il y a trop de monde, de pouvoir gérer un ordre d'arrivée. Voilà.
Alors, il y a un formulaire qui a été mis en ligne. Mmh. Alors, je ne connais pas l'adresse exactement, mais de toute façon, il y a le meet-up du collectif Girol. Et si vous allez sur notre site www.girol.org, dans la première page, il y a les liens vers tous nos meet-up et il y a le lien vers ce meet-up spécifiquement, cet événement en ligne qu'on a créé pour pouvoir s'inscrire. Et vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le jeu.
Voilà, ouais. Alors, du coup, il y a le lien, bien sûr, sur le site de Girol. Il y a aussi le lien sur le site gironde.demosphère.eu. Donc, il y a un agenda participatif des événements alternatifs de la Gironde. Et il y a aussi l'information sur. Je vais manger le nom. L'agenda du libre. J'ai mis l'événement là-dessus aussi. Et Diaspora, effectivement, il y a les infos vers les liens dont je viens de parler. Alors, je n'ai pas l'adresse exacte, mais vous tapez Demosphère, Demosphere.eu. Vous allez tomber sur celui de la Gironde et du coup, vous trouverez l'information au 17, mardi 17 janvier Et donc du coup, inscrivez-vous pour pouvoir savoir qui, combien de personnes vient. Et puis moi, ça m'aide aussi à l'organisation du jeu, parce que si on est 10 ou 20, c'est pas le même format, quoi.
Exactement. De toute façon, il y aura sûrement quelques Pékins ici chez Girol qui viendront au dernier moment se greffer au jeu. En tout cas, nous, on te retrouve la semaine prochaine, donc à partir de 18h30 ici.
Tout à fait.
Au centre d'animation Saint-Pierre. Et pensez à vous inscrire, on fera de toute façon tourner le lien sur Diaspora et aussi sur les réseaux traditionnels, réseaux sociaux privateurs traditionnels, Twitter et Facebook et Google+. Voilà, merci super. Beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
À mardi prochain. Alors nous, on va revenir du coup avec PGP, parce que on va parler du Ubuntu Phone. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ubuntu Phone, qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas un téléphone, pas exactement, pas encore du moins. C'est un système d'exploitation basé sous Linux, bien entendu, pour téléphone portable et qui est porté par l'entreprise Canonical, qui porte aussi le projet de distribution Linux Ubuntu. Voilà, c'est un système que l'on peut installer sur pas mal sur quelques téléphones actuellement, notamment la série des Nexus, si je me trompe pas. Et c'est aussi un système que l'on retrouve sur un téléphone qui a été vendu par l'entreprise espagnole BQ, oui. Qui vendait un de ces... Et aussi une entreprise chinoise, c'est Meizu, je crois.
Exactement.
Qui vendait ces téléphones. Alors, tu es utilisateur d'Ubuntu Phone depuis combien de temps?
Et je suis utilisateur d'Ubuntu Phone d'Ubuntu Touch pour être exact, depuis environ Noël. Voilà.
Donc c'est tout récent?
Oui, c'est tout récent.
Et alors? Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors, je peux vous parler vite fait, effectivement, du choix du téléphone pour se l'installer. Il faut savoir que la fondation Canonical fait parfois des ventes flash de téléphones déjà installés avec le système, ce qui est déjà quand même un signe qu'il y a un minimum de stabilité, hein, même s'ils disent bien que c'est quand même réservé, enfin, c'est la destination des développeurs. Et ensuite, il faut choisir, donc, mais ça, c'est assez rare. Il y a assez peu de ventes flash comme ça. Donc, du coup, il faut choisir un des téléphones, soit un des téléphones qui est porté vraiment par l'équipe de la Fondation Canonical, soit on va choisir un téléphone qui est porté par la communauté. Il y en a quelques-uns, notamment le Fairphone. Voilà.
Fairphone que nous avons là.
Voilà, on a un utilisateur à côté de moi.
Maxime est aussi utilisateur de Fairphone.
Tout à fait, ouais, depuis 5 mois à peu près.
Voilà. Et donc, il y a les Fairphone, il y a, il me semble, le OnePlus, il y a aussi effectivement quelques Nexus. Mais il faut bien faire attention à regarder les téléphones qui fonctionnent parce que il y a des téléphones, il faut vraiment pas taper au hasard. Hein. C'est pas parce que le 5e de la série est bien supporté que le 6e, ça passe ou pas du tout. Voilà, il faut vraiment... très, très bien visé. Ensuite,
à la manière en fait des gens qui veulent installer sur leur téléphone Android des systèmes alternatifs ou des ROM, ce qu'on va appeler des ROM alternatives comme OmniROM, Feu Cyanogène qui est maintenant Lineage OS ou d'autres ou Paranoid Android.
Voilà, il y a ce genre de choses, c'est ça. C'est-à-dire, on vire vraiment tout ce qui est, on va vraiment virer tout ce qui est, tout ce qui est Google ou dérivé de Google là, comme ça, dont on a parlé, et on va tabler vraiment sur un système là Ubuntu complet qui va arriver sur le téléphone. Alors, l'installation est pas très compliquée, je dirais. C'est assez simple. Moi, j'ai découvert là sur le moment, donc ça a été un peu. J'ai galéré pendant 2-3 jours avant de comprendre comment fonctionnent ces téléphones, en fait, puisqu'il y a différents modes. Il y a un mode qui est le fast boot, qui est un peu. Qui est le plus bas. Et puis après, il y a avec ça, avec ce fast boot, on va installer un petit utilitaire qui va permettre d'installer la ROM. Et puis, ça y est, le téléphone démarre. Et il est sous Ubuntu. Et là, on a quelques applications avec, bien sûr, le travers dont la fondation Canonical n'arrive pas à se défaire et c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'il vous met quand même au moins une appli Amazon et une appli Facebook sur au milieu des applications qu'ils vous mettent dès le départ. Voilà, mais ça, c'est très facile. On appuie dessus, on dit au revoir, on la désinstalle. Et après, on peut installer les applications qu'ils proposent dans l'App Store puisqu'il y a un certain nombre d'applications dans l'App Store. Moi, j'ai trouvé tout ce qu'il me faut pour mon usage. Je sais qu'en revanche, des gens qui sont friands d'installer toujours la dernière appli à la mode, etc., effectivement, n'utilise pas ça parce qu'au quotidien, il n'y a pas toutes ces applications-là, quoi. Il y a des applications, voilà. Et donc ça, c'était vraiment chouette parce que c'est un peu... donc ça fonctionne au quotidien. Il y a encore quelques petits bugs. Il y a des releases quand même. Enfin, il y a des upgrades qui sont relativement régulières. Donc les bugs ont l'air de bien quand même être virés au fur et à mesure. Voilà, moi je me suis installé avec l'OTA 13 et puis j'ai fait la mise à jour vers l'OTA 14. J'ai déjà vu quand même pas mal de choses. Et au quotidien, c'est opérationnel pour téléphoner, les SMS, les emails et puis un terminal. Parce que pouvoir sur son téléphone faire un apt-get install ou un coup de SSH, c'est quand même super pratique.
C'est ce que tu disais un peu, c'est que pour l'instant Canonical le réserve à ses développeurs parce que je dirais les power users, les utilisateurs vraiment aguerris vont pouvoir trouver à l'intérieur du téléphone tout un tas d'outils qui leur parlent, comme tu disais SSH, un terminal, et pouvoir surtout accéder à l'ensemble de leur système d'exploitation comme il est très difficile de le faire sur Android.
Alors, non, sur Android aussi, ça se fait apparemment. Moi, les utilisateurs d'Android, moi, je connais pas bien, mais les utilisateurs d'Android m'ont dit qu'ils arrivaient quand même relativement bien à se faire un terminal et avoir des applications terminales et à prendre la main sur un certain nombre de choses. La différence par rapport à un Android, c'est qu'un Android, il y a quand même toute une partie du code. Ben, c'est Google et c'est pas chez toi. Et tu sais pas ce qu'il y a.
Voilà. Alors, au niveau de, alors moi je sais que je suis très intéressé personnellement par Ubuntu Touch, justement parce que, voilà, parce que il y a l'écosystème Linux, il y a face à un accès à une commande que l'on connaît tous ici, qui est apt-get, qui est ou apt tout simplement. Par contre, il manque encore certains outils et certaines choses ne sont pas faisables encore facilement. Je vais essayer de pas rendre dans le désordre le chiffrement du terminal, chiffrer entièrement son terminal.
Exact.
Qui est assez difficile. Je sais que j'utilise une application libre qui s'appelle Silence, qui permet de chiffrer les SMS, qui on ne trouve pas d'équivalent encore sur Ubuntu Touch. J'utilise une autre application qui s'appelle SyncTing, qui permet de synchroniser facilement des choses entre mon serveur, de façon pair à pair, entre mon serveur, mon téléphone et mon ordinateur portable, qui sont pas encore utilisables facilement. La synchronisation de l'agenda et du carnet d'adresse n'est pas encore faisable facilement.
Ah si, moi je l'ai fait et...
Et nous voilà de retour. Je suis vraiment désolé, on a eu un petit impair technique et une déconnexion. Merci SFR qui est sûrement le fournisseur d'accès le plus minable de la planète et qui nous fournit effectivement Internet ici. Et nous revoilà, désolé pour les coupures, mais il faut dire que SFR est de très loin même le pire fournisseur d'accès à Internet en France, je pense. Voilà, on est revenu sur une connexion 4G qui a l'air de fonctionner, bon an, mal an. Tac, tac.
S'il vous plaît ?
C'est bon, on est de retour enfin sur une vraie connexion 4G qui fonctionne. Espérons que ça tiendra le coup. Alors, nous étions avec PGP et nous discutions du coup de la possibilité que l'on a sur les téléphones Android sous Ubuntu Touch de synchroniser maintenant facilement calendrier et carnet d'adresse.
Voilà, donc ça marche pour synchroniser les calendriers et les carnets d'adresses avec OnCloud, comme je disais, ou Nextcloud plutôt. Maintenant, il faut aller vers Nextcloud. Donc, comme je l'expliquais, pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est simple. Au lieu d'avoir un téléphone qui va se synchroniser, qui va synchroniser ses agendas et ses calendriers chez Google ou chez on ne sait qui, donc pas chez soi, quoi. Eh bien là, c'est la possibilité de le synchroniser chez soi ou comme moi sur les serveurs de l'association Aquilonet. Voilà, si vous êtes simplement adhérent à Aquilonet, vous pouvez avoir vous avez un petit espace et vous pouvez avoir vos calendriers et votre. Juste une précision par contre, la synchronisation des tâches ne fonctionne pas encore par contre. Il y a un léger bug encore du côté de chez Ubuntu.
Alors, j'étais un peu médisant parce que ça, depuis très longtemps, c'est possible, mais ce n'était pas possible facilement. Il fallait aller chercher dans la ligne de commande, aller taper des commandes, remplir des fichiers de conf à la main. Est-ce que maintenant, c'est fait facilement? On peut, avec une jolie interface, rentrer le nom de son serveur, son nom d'utilisateur, son mot de passe et valider? Ou est-ce qu'on a encore besoin d'aller un peu toucher sous le capot?
À vrai dire, je me rappelle plus vraiment, mais Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que pour moi, ça me semble toujours plus simple la ligne de commande, mais que les interfaces graphiques auxquelles je comprends rien en général. Mais c'est à vérifier. Ça, c'est il faudra vérifier. Mais c'est peut-être pour le mail. Pour le mail, je crois que je l'ai configuré à la main. On peut le configurer à la main.
Voilà. D'accord. De toute façon, ça reste possible. C'est déjà.
Ça reste possible. Et même en ligne de commande, je vais dire, tu fais un copier-coller de 3 lignes de commande et c'est réglé. Ah oui, non, mais vraiment, il y a rien de compliqué, quoi.
Alors, du coup, pour moi, personnellement, le point le plus bloquant serait encore l'impossibilité de chiffrer un téléphone. Pourquoi ? Parce qu'un téléphone, ça se perd, ça s'oublie, et qu'il est toujours très embêtant de savoir que quelqu'un va pouvoir avoir accès aux photos du petit dernier, au repas de famille en Noël, de Noël, et aux différents SMS qu'on a échangés avec ses amis ou sa famille.
Alors, moi aussi, j'ai le problème, puisque effectivement, je fais énormément de photos pédophiles. Pardon. Et non, pour être clair, j'ai regardé, effectivement, il n'y a pas encore de chiffrement, ça va venir. Il faut savoir que quand même, ils ont fait ce que Google a fait en 10 ans, eux, en 4 ans, grâce aux expériences ratées des autres, justement. Mais ça avance très vite, donc il n'y a pas encore de chiffrement. Et je voudrais juste apporter quand même une toute petite précision. Le téléphone portable reste un endroit profondément pas sûr. Pourquoi ? Parce que à l'intérieur, il y a toujours au minimum un hardware, une partie de hardware qui ne sera, qui pour l'instant n'existe pas du tout en libre, ni en open source, ni en rien. C'est le modem GPRS, le modem qui fait la transmission sur la puce téléphonique. Et ça a accès aux plus basses couches. Effectivement, logiciel du processeur. Et là, on sait que à partir de ce moment-là, ils ont la main. Si quelqu'un a la main là-dessus, ce qui est fort possible, ils ont la main sur absolument tout ce qu'il y a dans votre téléphone. Ne mettez pas de clé de chiffrement dans votre téléphone. Je veux dire, ça revient à donner votre clé de chiffrement et votre passe-phrase à celui qui a la main sur votre téléphone.
D'accord. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup PGP. On espère que tu reviendras nous voir pour nous faire l'état des lieux du téléphone sur Ubuntu. Hein. Il est quand même bon de rappeler que beaucoup de concurrents se sont lancés, hein, Microsoft les premiers, et que beaucoup se sont cassés les dents. On pense notamment au projet Boot to Gecko, alias Firefox OS, qui a disparu de la circulation totalement. Ouais. Mozilla préférant abandonner le projet.
Mais Torphone arrive.
Voilà. Mais il y a des Fairphone, oui. Alors, on va maintenant parler du Wikimock numéro 2. Alors, ce n'est pas vraiment dans l'agenda parce que c'est pas pour tout de suite. On en reparlera de toute façon la semaine prochaine. Et en attendant... Le mois prochain, oui, tout à fait, Mathis, le mois prochain. En attendant, Mathis, tu vas nous dire qu'est-ce que c'est qu'un Wikimock ?
Un Wikimock, c'est un mock.
Parle.
Allô ? Ouais, c'est bon.
Ben, le Wikimock, c'est un mock, donc un cours en ligne... On m'entend pas ?
Non, très 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 mal en fait. Si, pourtant il y a ton micro.
Plus près.
C'est bon ?
Oui, là c'est bon.
Ah, donc le Wikimock, c'est un mock, donc un cours en ligne massif qui permet d'apprendre à contribuer à Wikipédia. Donc il a été, alors c'est la deuxième édition, la première a eu lieu il y a un peu plus d'un an, il y a un peu moins d'un an, pardon. Et il est préparé par des contributeurs de Wikipédia en français et l'association Wikimedia France. Un certain nombre de contributeurs qui préparent et les inscriptions sont ouvertes. Et pour l'instant, cette année, les chiffres d'inscription sont pas aussi bons que l'année dernière. Donc on essaie un peu de ramener du monde parce que, mine de rien, l'année dernière, il avait plutôt bien marché. J'ai quelques chiffres. Sur 6000 inscrits, 2000 avaient commencé et presque 700 avaient terminé quand même. On sait que la moyenne de personnes qui vont au bout d'un mock est de 10%. C'est quand même plutôt encourageant par rapport à la dernière édition, sachant qu'il bien sûr a été amélioré. Il dure cette fois-ci 6 semaines au lieu de 5. Les gens dans les retours avaient estimé qu'il manquait peut-être une semaine à la fin. Donc ils ont rajouté une semaine pour approfondir un petit peu l'apprentissage de Wikipédia. C'est fait par des contributeurs francophones, donc notamment 3 qui s'occupent des vidéos, mais également beaucoup d'autres derrière. En gros, c'est en 5 semaines, découvrez Wikipédia, apprenez à contribuer, rédigez et collaborez, créez un article, quand même passer par là, améliorer votre article. Et la semaine 6 qui a été rajoutée, donc c'est pour découvrir les différentes manières de contribuer autres que créer un article.
Alors, quand tu parles de 6 semaines, c'est 6 semaines à 35 heures semaine ou alors c'est 6 semaines en se connectant 2 heures tous les soirs pour pouvoir...
Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est le temps estimé, c'est 3h30 par semaine. Donc, c'est vraiment une petite demi-heure chaque soir.
D'accord.
Donc, c'est vraiment accessible à tous. C'est fait pour que chacun puisse... profiter de son temps libre pour le faire.
D'accord. Et en fait, si vous mettez un cours tous les jours, comment est-ce que ça se passe un MOOC concrètement ?
Alors, tous les jours ou toutes les semaines, j'ai pas les détails en tête, mais effectivement, c'est au fur et à mesure qu'on progresse dans le MOOC. Les cours qui arrivent. Il y a les tests aussi, qui sont notés ou non selon les tests. Il y a deux modules par semaine, en fait. Donc, avec un test à la fin et ensuite, on peut passer à la suite du MOOC.
Très bien. Et donc, ça sera à partir du mois de mars, du 28 mars
Du 6 mars. Du, 6, du mars 6 mars au 19 avril.
Ah oui, je ne regardais pas la bonne ligne, autant pour moi. Donc voilà, de toute façon, tu nous en reparleras un petit peu le mois prochain et on reviendra dessus pour faire un point sur les inscriptions et pour reparler de tout ça.
Ouais, bien sûr.
Voilà, merci beaucoup Mathis. On va s'écouter la bande à Clouman, Noir à Blanc, sur Radio Girol. Et on reviendra ensuite vous parler de notre nouveau copain Donald Trump et de ses copains à lui, Fillon par exemple. Voilà, ça sera sur Radio Girol.
Des larmes, les enfants de la faim. On pille leurs lacs, des poissons festins. On soigne les plaies de leur guerre sans fin. On vend nos armes à leur chef incertain. On voit nos cœurs serrés, cette forêt brûlée. Et on consomme effréné les palmiers. On souhaite le bonheur des peuples affamés. Et on engraisse de leurs terres cultivées. Et dire que chez nous, on a même peur du loup. On a tous dans le cœur l'envie d'être meilleur, ce besoin de valeur. Mais nos gestes coupables, et si nous étions le diable, avons-nous compris le monde et la terre qui gronde? On se donne des lois qui protègent les enfants, ils souffrent au labeur pour tisser nos vêtements. On rêve d'un monde de fleurs et d'encens. On pourrit tous nos déchets dégoûtants. Monde ma boule, on a même peur des poules. On a tous en secret l'envie de faire la paix. Ce petit feu follet, mais nos larmes infectées. Et si nous étions damnés, devons-nous craindre le monde, la tempête qui gronde?
Et voilà, c'était la bande à Clouman noir et blanc sur Radio Girol. On est maintenant avec FX. FX, c'est le prolifique.
Salut. FX.
Comment vas-tu? Bonne année, FX.
Bonne année, Girol.
Alors, on va parler de copains à Donald Trump et de AT&T, de la neutralité du net. Mais avant, il faudrait qu'on parle du personnage de l'année 2017. Enfin, celui qui s'annonce être comme le personnage de l'année 2017. Parce que pour commencer cette nouvelle année, on avait tous besoin d'un peu de rigolade. Et pour rigoler un peu, on va voyager. On va aller à Las Vegas, aux States, au CES à Las Vegas, voilà. Où on va parler de notre Chuck Norris de l'Internet français. Parce que ça y est, nous aussi, on a un Chuck Norris en France. Il tabasse tout. Et voilà, notre Chuck Norris à nous, il est pourfendeur du Minitel. C'est notre Fillon national. Répétez d'ailleurs cette phrase en boucle le plus rapidement possible. Vous allez comprendre. Voilà. Parce que l'Internet, en fait, on le doit pas à la victoire du TCP face au protocole NIX. Hein. Le TCP étant libre, qui avait alimenté par les RFC, et le protocole NXS, qui était à l'origine censé... Les gens qui travaillaient dessus étaient censés travailler pour le TCP aussi. Mais ça allait pas assez vite à leur goût, alors ils ont fait leur propre protocole, mais ils l'ont pas ouvert. Et ben malheureusement pour eux, leur protocole il a servi à rien, parce que même si TCP est arrivé après, c'est lui qui a gagné. Internet, on le doit pas non plus à l'avènement de Linux et d'Apache qui a permis d'héberger des pages web assez facilement et d'héberger même plusieurs sites web sur la même machine. Parce qu'à l'époque, IIS de Microsoft, hein, ils savaient pas faire ça. D'ailleurs, ils savaient pas faire grand chose. Tout court. Voilà. Internet, on le doit pas non plus à l'avènement de langages comme le PHP, hein, ou encore aux bases de données MySQL et on le doit pas non plus à tout un tas d'autres choses qui étaient libres, hein, et dont nous,
les libristes,
voilà, merci, on sait si bien faire, voilà. Voilà. On pensait remercier gentiment la Fondation Linux, la Fondation Apache, on pensait aussi remercier l'équipe de MariaDB, faire des bisous tout doux aux petits gars de chez PHP, câliner les bénévoles de la FFDN ou encore d'Aquilonet, et on en a quelques-uns ici à câliner des bénévoles. Non, tout ça, il faut même pas y penser. Voilà. On va plutôt remercier un mec qui, en 96, croyait encore Minitel. Voilà. Un mec qui rêvait de créer le Conseil supérieur de la télématique. Notez d'ailleurs que télématique est un mot à peu près aussi sexy qu'un plat de pâtes sans beurre, sans fromage et sans sel. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Mais non. D'ailleurs, rêve de télématique, de Conseil de la télématique, qui a été brisé par le méchant Conseil constitutionnel qui a censuré la loi comme il censurera d'autres lois issues notamment du projet Lescure. Voilà. Voilà. On va remercier.
Oula, du coup.
Voilà, voilà, mais on y viendra. Voilà, parce qu'Internet dans l'Hexagone, c'est grâce à François. Qui François en 95, dès qu'il a froncé les sourcils en regardant France Télécom, et des sourcils, il en a des gros. Les mecs, ils ont eu vachement peur. Ils ont dit, on arrête le Minitel, on vire tout un tas de fonctionnaires parce que François, il aime pas trop les fonctionnaires, hein, et on va se mettre à l'Internet au vrai. Voilà. Ben ouais, François, c'est le mec qui fait venir l'Internet en dégraissant le mammouth d'État. Hein. Voilà. Voilà. Moi qui pensais que Christine, c'était la meilleure avec son pare-feu Open Office, je me suis trompé. Le meilleur, c'est François, notre Chuck Norris national qui, d'un coup de Nunchaku, a dégommé du fonctionnaire pour faire venir l'Internet. Et du coup, on va parler d'un autre Chuck Norris, mais celui-ci, il est américain et il s'appelle Donald Trump.
Juste pour faire une parenthèse, faut dire que France Télécom fait de nets progrès, hein. Ils ont créé Orange il y a quelques années. Depuis, ils essayent de faire de l'Internet encore. Bon, ils vont y arriver un jour.
Ouais, ceci étant dit, le RIPE refuse de leur affecter des adresses IP parce qu'apparemment, ils en ont perdu pas mal. Ils savent même pas où ils ont mis. Un peu comme Atari avec sa console Jaguar 64 bits. Ils l'ont lancé tellement haut qu'elle n'est jamais retombée. C'est un peu ce qui arrive aux adresses IP chez Orange. Ils ont lancé tellement haut après la gueulante de François qu'ils ont perdu. Et...
On va peut-être retrouver des adresses IP dans le désert du Nevada.
C'est ça. Alors, tu vas nous parler d'AT&T, tu vas nous parler aussi du zéro rating et de la neutralité du net. Alors,
Trump, en fait, bon, juste pour fermer la parenthèse sur Trump, parce qu'en fait, j'ai pas très très bien préparé mon sujet, j'avais un peu la tête ailleurs ces derniers jours. Voilà, Trump s'entoure en ce moment de collaborateurs tous plus ou moins bizarres, notamment des types qui sortent franchement de l'extrême droite, et en communication...
Conseiller à la Maison Blanche.
Les conseillers à la Maison Blanche. En réseau Internet et autres facéties comme ça, en télécom, il s'est entouré d'une nana dont j'ai zappé le nom. En fait, j'aurais dû vraiment mieux préparer que ça. qui elle est une fervente défenseuse de la non-neutralité de la concurrence sur les réseaux, etc. Et notamment, elle gravite autour de AT&T, dont je vais parler juste après, et ce genre d'entreprise. Pour elle, le BEREC sont vraiment des farfelus utopistes. Donc, je me rappelle plus son nom, ça m'énerve tellement. Mais voilà, à surveiller de près. Le cabinet Trump est vraiment vilain sur bien des plans et sur la neutralité des réseaux également.
Alors, je pense que tu parles de Roslyn Layton.
Ça doit être elle, oui. Oui, pense. C'est tout à fait elle.
Voilà.
Et alors donc, la neutralité du net, est-ce que je vous fais un topo, est-ce que je vous rappelle ce que c'est ?
Je pense que oui, c'est toujours les révisions, c'est toujours bien.
Ok, alors la neutralité du net, en fait, ce sont quelques principes fondamentaux qui en fait, disent que eh bien, voilà, les opérateurs de réseau n'ont pas à discriminer le trafic et à observer ce qui se passe dans les tuyaux. Ils n'ont pas à en changer le moindre paquet, pas le moindre, et tout doit passer tel quel d'un point A à un point B, sans faire de préférentiel ou sans faire de DPI, par exemple. Voilà, le DPI, c'est l'anti-neutralité. Alors, le DPI, c'est le Deep Packet Inspection. En gros, on va regarder dans votre AMIP ce qui se passe quand elles vont circuler. Et par exemple, on a décrété que le mot table, c'était un mot un peu interdit. Donc, en fait, on va remplacer tout le mot table qui vont passer dans les paquets par des astérisques. Voilà, ça c'est un petit exemple idiot comme ça. Mais
pour faire l'analogie avec le courrier, parce que du coup c'est en général bien plus parlant, ça veut dire que la poste aurait le droit d'ouvrir, et dès que vous dites que la poste c'est des nazes, hein, voilà, ils censurent.
Voilà, vous vous retrouvez avec un trou dans la lettre. Donc ça c'est un principe contre lequel est établie la neutralité. Et aussi la concurrence du trafic, c'est-à-dire que normalement les opérateurs ne devraient pas poser de quality of service, en fait, de QoS, pour dire bah tiens, tel paquet va plus vite parce que par exemple moi je suis Orange et alors je possède Dailymotion, et alors Dailymotion c'est bien, donc mon concurrent c'est YouTube, donc tous mes clients, hein, pour qui je suis le FAI, à qui je fournis de l'accès à Internet, tous ces clients-là, en fait, je vais plutôt prioriser le trafic vers Dailymotion que vers YouTube.
C'est SFR qui possède Dailymotion et SFR est déjà évité de base.
Oui, mais de toute façon, rien ne vaut les fournisseurs d'accès à Internet associatifs locaux.
Ouais.
À qui le net, par exemple.
Les membres de la FFDN, faites votre propre putain de réseau, les gens.
Voilà. Ouais, mais quand on veut la fibre, des fois...
Mais la fibre, ça se pose. On a des membres dans la FEDE qui ont posé de la fibre, quoi. Ça coûte pas cher, la fibre.
Et regardez, en Angleterre, une nana dans un village un peu perdu, elle a carrément posé, elle s'est fait FAI, et pourtant, elle n'y connaissait pas grand-chose, elle a posé sa propre... Elle a fait 2 km de fibre et elle a fibré tout le monde.
Voilà, c'est on se retrouve face à des expériences un peu communes en France, quoique communes. Je crois qu'il n'y a pas deux FAI de la FFDN qui opèrent de la même manière et qui fassent la même chose.
Ah oui, ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend de la géographie, ça dépend des gens dans le coin, de la manière dont le réseau se monte historiquement. Enfin, c'est très 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 relatif.
Enfin, toujours est-il que là, parce que pour l'instant, c'est pas le problème. On reparlera de la fédération de Aquilonet et de comment fonctionne Internet avec les AS et compagnie. Mais pour l'instant, on est sur AT&T.
Voilà. Alors, AT&T, en fait, les principes de la neutralité sont normalement faits pour être appliqués aux États-Unis, hein, en Europe aussi. En Europe, c'est le BEREC qui se charge ça, de maintenir, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de deep packet inspection ou de priorisation du trafic selon les. Selon les destinations des paquets ou les sources. Mais AT&T, en fait, s'est dit, tiens, je vais réussir à contourner tout ça. Et en fait, en France, on a vu ça un peu, puis ils se sont fait taper sur les doigts, et voilà. Mais en proposant ce qu'on appelle le zéro rating. C'est-à-dire que plutôt que de ralentir le trafic des concurrents, on va rendre gratuit le trafic à nos propres services ou à nos copains qui nous graissent la patte de notre côté. Donc, on va se retrouver, en fait, avec un trafic qui va être payant pour un tarif lambda chez n'importe où et qui vous coûtera zéro. Notamment, ça se fait beaucoup pour les mobiles. Enfin, ça s'est fait pour les mobiles. Et qui vous coûtera zéro si vous allez voir, par exemple, YouTube ou alors Pornhub, n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas, les services qui ont payé.
C'est ce que faisait SFR. Déjà, ils se sont fait épingler. Quand à un moment donné, ils ont proposé une offre sur mobile où quand on regardait YouTube ou Netflix, c'était gratuit. On ne payait rien de plus. On n'était même pas limité. Enfin, on ne payait pas. C'était une question de fair use. Le YouTube et Netflix n'étaient pas décomptés du fair use.
Alors voilà, donc les gens vont se dire, mais attendez, pourquoi c'est trop bien, pourquoi vous êtes en train de gueuler contre ça, là les gars ils fournissent du service gratuit et tout. Rappelez-vous, si c'est gratuit c'est vous le produit, on l'aura jamais assez dit. En fait, là où ça devient dangereux, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, on va se retrouver avec des services gratuits et des services payants, et on va se retrouver en face, en fait, à nouveau de discrimination sur le réseau. Et donc, on aura de l'Internet à deux vitesses.
Ou trois ou quatre vitesses.
Trois ou quatre, et voilà. Et si on commence comme ça avec des services gratuits, la prochaine couleuvre qu'on avale, c'est que bientôt, il faudra aller sur Internet. En fait, pour aller sur Internet, pour voir tel ou tel site, on va se retrouver à payer des bouquets, comme du satellite, en fait. Et donc, il faut vraiment mettre en garde les gens par rapport à ça. Parce que si ça passe, c'est la prochaine couleuvre qu'on avale.
Sachant que ce qu'il faut voir à plus long terme, c'est qu'une fois que la concurrence est faussée, parce qu'effectivement, si je suis chez Orange et qu'il y a par exemple des territoires où seul tel ou tel opérateur y a accès, notamment en France beaucoup l'opérateur historique, et si par exemple Orange n'est pas mis avec Netflix et donc fait payer plus cher Netflix, ça veut dire que moi qui suis au fin fond de la pampa avec comme seul opérateur l'opérateur historique, je n'aurai pas le choix et il pourra me faire même payer le prix qu'il veut au final pour faire accéder à telle ou telle chose, parce que du coup il préférera privilégier son...
Alors tant que c'est Netflix, c'est pas grave. Après, c'est quand on va faire du torrent par exemple, ou pire, quand vous allez aller sur Wikipédia, clairement, là il va vous dire, va falloir payer. Ou alors, ils vont vous ralentir à mort le trafic. Et voilà. Bon, le zéro rating, c'est ça. On ne ralentit pas le trafic officiellement. Et par contre, on va vous faire raquer. Et on va vous faire raquer à chaque fois que vous n'irez pas voir un espèce de truc, un espèce de fast-food à consommer comme Facebook, quoi.
Alors, il y a eu beaucoup d'études faites sur le sujet, notamment beaucoup d'études qui pointent vers le même effet néfaste du zéro rating. C'est de dire que comme on fausse complètement la concurrence, on fausse aussi complètement l'innovation. Or, Internet, et ces dernières années, on a été plutôt dans le sens, c'est l'innovation même. Il y a toujours des nouvelles choses qui apparaissent, qui disparaissent aussi. Mais si jamais, effectivement, un opérateur, comme les opérateurs historiques dans beaucoup de pays, qui ont plutôt tendance à être immobiles côté innovation, ils n'ont même plus besoin de rien faire, parce qu'ils savent que si un concurrent se montre beaucoup plus innovant qu'eux, de toute façon, il ne pénétrera pas leur réseau. Donc,
C'est complètement ça. De toute façon, ils faussent la concurrence à la base. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, par exemple, avec des grosses entreprises qui font pression sur l'Europe pour dire oui, non, mais en fait, qui arrivent à faire de l'évasion fiscale parce que de toute façon, elles sont tellement énormes que voilà, la concurrence est déjà faussée à la base. Il y a un rapport de poids qui est faussé. Faire entendre sa voix au milieu de ça, au milieu de ces géants, c'est extrêmement difficile. Et quand ils sont en position de monopole, par exemple, si on est au fin fond de la pampa, normalement, l'ARCEP est censé nous en protéger. Mais c'est pas gérable.
On peut aussi venir à ce qui se passe un peu dans les médias, c'est-à-dire que des grands groupes et des grands patrons contrôlent les médias, donc contrôlent ce qui est dit et peuvent à tout moment, et ça s'est déjà vérifié, empêcher la diffusion de telle ou telle chose, ce qui est possible aussi du coup avec un opérateur qui pratiquerait la non-neutralité du net. C'est-à-dire que comme j'ai le droit de regarder ce qui passe, si jamais il y a par exemple Mediapart, Reflet.info ou je ne sais quel autre site qui m'emmerde, je peux tout simplement le couper ou mettre un service tellement bas que de toute façon le visiteur il chargera même pas la lente-tête du bandeau parce que l'image sera beaucoup trop lourde par rapport au débit que je vais lui accorder et donc il va finir par partir.
Ouais, ou tellement cher que ça coupera complètement aussi l'envie d'y aller.
Et donc la naissance de médias alternatifs et
Ça peut. Alors après, FX, je ne sais pas si tu sais où ça en est de cette situation un peu paradoxale, où c'est vrai qu'il y a peut-être des acteurs géants du net pour lesquels on n'a pas forcément une grande amitié, mais qui, eux, seraient encore opposés justement à ces zéro ratings et qui seraient plutôt du côté de la neutralité.
Alors, il y a un gros acteur en France qui a... Bon, finalement assez peu connu pour en sa qualité de FAI, en tout cas en France, mais qui est FAI, donc qui fournit de l'accès à Internet, qui fournit plein d'autres services Internet, qui s'appelle OVH, qui est quand même un gros acteur, notamment au niveau européen, voire international, qui ont des data centers un peu partout sur la planète, etc. Machin. C'est une boîte française, hein. Eux, ils sont très clairement et ouvertement positionnés pour la neutralité du réseau. Maintenant, dans les gros acteurs, je crois savoir que Google, en fait, pour s'être fait emmerder plusieurs fois, notamment par des petits FAI, notamment par Free, Google, en fait, a toujours posé ça comme... ligne en disant nous on est pro neutralité. Maintenant voilà, ils sont neutres, mais qu'est-ce qu'ils font de nos données? Ça, c'est un autre problème.
Et maintenant ils ont tenté d'installer des réseaux fibres dans des grandes villes aux États-Unis, alors apparemment ça a pas très bien marché, mais si ça avait marché, aurait-il eu le même discours? Tout le monde se souvient de Don't Be Evil, mais en fait ils se sont appropriés de, enfin, à l'origine c'était leur slogan, et du coup ils sont vraiment passés du côté obscur de la force des données personnelles.
Ouais.
Alors à ce niveau-là, ouais. Et après il y a aussi une autre chose, je pense, en termes de traitement de Google ou de traitement de Google dans notre imaginaire, il y a deux manières de le prendre. Soit effectivement on se dit bon ben c'est le mal, c'est le diable, etc. Et on se dit, parce que effectivement c'est vraiment pas bien ce qu'ils font avec nos données. Vous le voyez bien, hein, vous allez vous discutez avec un ami de quelque chose de précis dont vous ne discutez jamais, et puis 5 minutes après vous avez dans vos pubs on vous propose ça à acheter, enfin bon bref. Donc ça c'est pas bien. Mais après là pour ce combat là si effectivement ils se positionnent du côté de la neutralité pour l'instant, je préfère dire que c'est quand même une bonne chose, et que voilà. Après, ce qu'il faut en termes d'imaginaire, plutôt que de se dire que c'est le diable, moi je me dis surtout que ça pourrait le devenir si jamais quelqu'un, comme c'est en train d'arriver aux États-Unis par exemple, menace d'utiliser ce qu'ils savent pour faire des choses atroces. Voilà. Clairement, Trump a demandé la liste, enfin a dit qu'il demanderait la liste à tous ses grands services, et qu'il demanderait la liste de tous les musulmans des États-Unis. Vous imaginez, la liste avec les noms et les adresses de tout le monde. Bon, il a dit qu'il le ferait. Effectivement, moi, c'est plus ça qui m'inquiète. Encore plus que l'usage commercial qu'ils font de ces données, c'est que cet usage commercial, ce qu'il ouvre comme possibilité, et notamment en étant extrêmement centralisateur, c'est que quelque chose se passe très mal un jour comme ça.
Bah, la dernière fois qu'un type a ouvert des fichiers à grande échelle pour discriminer les gens par leur religion en Europe, enfin bon, bref...
On n'a pas le droit de passer le point Godwin, tu t'en rappelles?
Voilà, donc j'en parlerai pas.
Non, mais c'est un peu ce qu'on disait aussi au moment de la loi renseignement. Le gouvernement nous disait oui, mais de toute façon, si les extrémistes arrivaient au pouvoir, ils feraient ce genre de loi. Mais oui, mais les données existeront déjà. Ça ne sert à rien de leur faciliter une éventuelle tâche dans le cas où, malheureusement.
Voilà. Donc, pour en venir à Google, moi je pense très honnêtement. Voilà, que malgré tout ce qu'on peut leur reprocher par rapport aux données, etc., ils ont tout à gagner dans la neutralité. Il y a une espèce de souffle dans le casque.
C'est moi. Non, c'est que dans ton casque.
D'accord. Non, eux, ils ont tout à gagner dans la neutralité. Je sais que, par exemple, Apple a beaucoup moins à gagner dans la neutralité, parce que Apple se pose sur plein de terrains et n'a pas la même ligne, en fait, de comment on appelle ça, la même ligne de conduite que Google. Ils ont toujours tout fait fermer, Apple. Alors que Google a pas mal aidé l'open source quand même.
Il y a quand même les Google Summer of Code, voilà, qui fonctionnent toujours.
Oui, et puis il y a toujours, il y a quand même Google, enfin macOS est quand même basé sur Darwin, qui est un logiciel libre. Même si c'est loin de ce que fait Google, il y a quelques petits trucs. Je pense aussi à l'iPhone qui avait refusé de faire une backdoor dedans pour permettre à la CIA.
Oui, mais on parle déjà là, on parle de neutralité du net. Enfin,
oui, après, oui, non, bien sûr, mais il dit Google a peut-être moins gagné. Après, est-ce que c'est de l'image? Je sais pas.
Le truc, c'est qu'avec leurs infrastructures aussi, et le fait que apparemment ils ont essayé ou ils essayent de devenir opérateurs de réseau, bon, voilà. Moi, je suis pas là pour les défendre, hein, parce que ils sont.
Ça va, ils s'en sortent tout seuls.
Ils se démerdent très bien tout seuls, c'est des grands, hein, et ils sont bien crapouettes sur plein d'autres plans.
Du coup, se pose la question, là on est en train de parler des États-Unis, de la TNT et effectivement d'un opérateur téléphonique qui ressemble à un de nos opérateurs mondiaux, enfin national ici. Et qu'en est-il en France? Et qu'est-ce qui, au niveau de, alors on va parler du seul candidat déclaré univers de la droite universelle française, je dirais plutôt de l'extrême droite universelle française, mais ouais, ça c'est un autre problème. On va parler de François Fillon, qu'est-ce qu'il en pense lui de tout ça?
Alors, j'ai pas étudié vraiment le programme de Fillon. À mon avis, la neutralité du net, il s'en cogne comme de sa dernière chemise, et même il serait plutôt du genre à faire des cadeaux à ses potes type Martin Bouygues ou alors Orange, enfin du moins la partie privée d'Orange ou ce genre de bêtises. Voilà. Pour ce qui est de la neutralité du net en France, on a l'Arcep dans un premier plan et le BEREC au niveau européen, en fait, qui sont censés protéger, en fait, ceci. Il faut savoir que la 5G va arriver d'ici 2020. Ils sont en train de mettre les protocoles en place, etc. Et on a déjà les gros opérateurs de réseau, notamment en Europe, parce qu'en fait, la 4G, c'est presque pas installé aux États-Unis. Enfin, c'est un truc, c'est passé en Europe, mais aux États-Unis ils n'ont pas trop fait de 4G. Mais en tout cas, les gros opérateurs de réseau, notamment mobiles européens, et quand je vous parle des gros, je vous parle de Bouygues, SFR, Orange, Vodafone, ce genre de bêtises. Ces gros opérateurs-là sont déjà en train de dire écoutez, avec la 5G et toutes les applications qu'il va y avoir, la neutralité du réseau, de toute façon, on ne peut pas l'appliquer, etc., etc. Et ce sont ces mêmes gens-là qui sont en train de standardiser le protocole de la 5G et donc de peut-être finir par péter cette neutralité, quoi.
C'est ça, en fait, sous couvert de dire oui, mais la 5G va transporter des données médicales qui sont plus importantes que, voilà, que la musique du Pékin qui écoute Spotify. Donc,
et sachant que d'un point de vue technique, déjà au départ, tout ce qui est 3G, 4G, 5G, ça n'est pas du vrai Internet. Hein.
Oui, c'est du natage à fond.
Ah, voilà. Oui.
C'est ça.
Sauf si on prend un VPN qui nous donne une adresse IP chez Aquilonet, par exemple.
Par exemple. Excellent exemple.
Non, mais, tu vas voir qu'un jour, ils vont réussir à nous faire payer les IPv6. Quoi.
C'est déjà le cas. Il y a déjà des opérateurs qui font payer l'IPv6.
Ah ben, dis donc.
En supplément.
Oui, parce qu'ils en ont eu beaucoup d'affectés, ils les ont aussi perdus.
Ah, ouais. C'est ça.
Donc, enfin, voilà. Donc, c'est pas tout rose du côté de la neutralité du net. Et on a encore de nombreux combats à mener. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à soutenir, un, les fournisseurs d'accès associatifs à Internet. Il y en a sûrement un pas loin de chez vous. On citera Kilonet ici. On citera à qui est-ce qui fait opérateur à Toulouse. Il y a aussi
Tétaneutral.
Oui, Tétaneutral, qui est un des plus gros de la fédération, d'ailleurs, de la FFDN. Peut-être le plus gros, d'ailleurs.
Pas le plus gros, ouais, après la FFDN.
Ils fournissent un peu plus de 700 personnes dans,
ah oui,
des,
non,
squats,
alors ils ont peut-être pété
des,
la FDL.
Voilà, donc c'est assez
voilà, bon. En plus ils travaillaient sur un, enfin j'ai Sacha qui me parlait de chez vous, de chez Aquinet, qui me parlait de réseau maillé wifi qu'ils expérimentaient il y a quelques temps de ça aussi,
ouais, pour couvrir les zones blanches,
ouais,
pas que,
ou pour avoir un vrai internet dans les zones non blanches aussi,
oui. Oui, oui, à Toulouse, par exemple, Theta Neutral, c'est presque que du. Eux, c'est presque que, effectivement, des ponts Wi-Fi directionnels, point à point. On peut faire jusqu'à. Je crois qu'ils se sont amusés à battre le record de France en faisant un point à point qui allait du pic du Midi de Bigorre jusqu'à Castres, si je me trompe. Donc plus de 200 km. Et voilà. Et ils arrivent à faire du réseau comme ça. Et ils sont propriétaires de leur réseau. C'est ça, ça, c'est quelque chose d'énorme que nous, on n'arrive pas encore à faire à Aquilonet et qu'on aimerait faire. Donc si vous avez des immeubles sur lesquels on peut venir mettre des antennes, pour pouvoir viser point à point, il faut se voir avec l'autre et comme ça. Et si on arrive à faire nous des maillages, effectivement, on sera propriétaire de notre réseau. Et il faut se dire que la neutralité du net, à terme, il est fort probable qu'elle ne soit gagnable que si les citoyens sont propriétaires au moins d'une partie de leur propre réseau.
Voilà. Donc ça veut dire non seulement s'auto-héberger grâce à des solutions qui coûtent pas cher en énergie et en investissement comme la brique internet, mais aussi
ou
grâce
YouNoHost, déjà.
Voilà, ou YouNoHost. Alors, je parle de la brique parce que l'avantage de la brique quand même. Alors, j'ai moi personnellement un serveur, un HP microserveur, et ça consomme quand même une certaine. Voilà, c'est même si c'est un processeur basse consommation, ça consomme de l'énergie. La brique, elle consomme beaucoup moins d'énergie.
Et puis après, il y a une autre solution aussi qui, d'un point de vue économique, par rapport à la nature, tout ça, et surtout d'un point de vue du temps qu'on va passer à régler tous ces services, plutôt que d'avoir ces services à des endroits où qu'on connaît pas, chez des gens que l'on ne connaît pas, dans des entreprises même, voilà, tout ça, eh bien, une petite asso au niveau local, on se met à plusieurs et on fait un serveur pour plusieurs personnes. Non seulement on est plusieurs pour pouvoir l'entretenir et on a confiance parce qu'on boit des bières ensemble. Et puis, et puis ça coûte moins cher effectivement de faire un serveur pour 5 personnes.
Exactement. D'où l'idée qui a déjà fait son petit bonhomme de chemin, me semble-t-il, à Aquilonet, d'avoir un jour un data center associatif.
On est très très proche d'y arriver.
Voilà, mais ça il faudra me tenir au courant parce que mon microserveur il sera très très bien dans un data center associatif. Il s'y sentira bien, tout ça. Il y aura peut-être un peu moins de poussière que chez moi aussi.
Et puis moi qui ai un serveur dédié, je serais ravi de passer sur un data center associatif.
Alors, je vous propose une petite pause musicale et ensuite, on va parler très très vite fait d'un jeu. Très très vite fait, hein. Voilà.
Ouais, mais moi je vais vous laisser alors parce que du coup, je vais partir un peu plus tôt.
Merci beaucoup Mathis d'avoir été parmi nous ce soir et peut-être à la semaine prochaine. Sauf s'il y a match des boxeurs.
Je vérifierai.
Voilà. Allez, on écoute Frick, les cassettes sur Radio Girol.
Hey, petit champignon. T'as pensé à télécharger l'application Radio Girol sur ton téléphone mobile ?
Ça s'appelle Radio Girol, c'est sur le Play Store.
Et voilà, de retour, on atteint, on va sprinter, mais vraiment sprinter pour le dernier petit...
On a 5 bonnes minutes.
C'est ça, on a 5 bonnes minutes. On va parler 7. Jeux vidéo.
Ouais, les jeux vidéo, c'est cool.
Et c'est Simage qui va s'y mettre. C'est rare que tu présentes un jeu quand même.
Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pu jouer sur mon ordinateur, puisque je suis utilisatrice Linux Debian, et que trouver des jeux sur Linux, voilà, vous savez tout ce que c'est. Donc j'avais un peu oublié de jouer pendant quelques années. Je jouais à un super jeu qui s'appelle Battle for Westnot.
Oui, mais qui est libre là.
Qui est libre en plus, il est vraiment super. Mais ouais. Bon, là j'ai fait un peu toutes les campagnes 10 fois en mode super dur, super dur.
Tu as 0 AD aussi qui a l'air pas mal.
Ouais, alors moi j'aime pas ce genre de jeu. Moi tu sais, je suis une vieille école. Alors soit c'est du point and click, soit c'est au tour par tour. Enfin, faut pas que ça aille trop vite. Faut que j'ai le temps d'aller faire mon café, boire ma clope, revenir. Et j'aime pas mettre pause. Donc j'aime que ce soit tour par tour, tranquille, pépé.
Alors tu vas nous parler d'un jeu, mais d'un jeu qui n'est pas très récent.
Non, non plus. Non, mais les jeux pas récents, c'est bien aussi.
Exactement. C'est assez rare pour le souvenir.
Voilà, le Pong, merci, Microchip. Non, ça s'appelle Botanicula, donc j'ai découvert moi ça cet hiver. Je me suis offert des jeux sur GOG.com pour Noël.
Voilà, GOG qui est un marché alternatif du jeu vidéo, qui propose beaucoup de jeux, enfin que des jeux vidéo qui ne sont pas DRMisés.
C'est pour ça que j'ai préféré à Steam. Parce Exactement. Que moi, je n'aime pas les DRM. Même je suis si... encore un peu énervée du dernier jeu qu'on a essayé de me prêter et qui était DRMisé. Donc j'ai
même,
pas pu jouer.
Même si il faut avouer que beaucoup de jeux sur Steam, sur Linux, n'utilisent pas du tout de DRM et on peut très bien extraire un jeu comme que je parle de l'exemple de Hotline Miami. On le prend, on le met sur une autre partition, sur un autre Linux, on lance et ça marche parce que le jeu, c'est l'éditeur qui choisit même sur Steam de mettre ou de ne pas mettre des DRM.
Bon, bah, Civilization 4, non. Il y a des DRM et on n'a pas le droit de te prêter un jeu.
Voilà.
Bon, revenons à Botanicula. On a perdu Isa ?
Non, c'est juste que le micro était...
Éteint.
Et bon, par contre, moi, j'ai un micro trop haut. Alors, attendez, je me... Hop, comme ça, parce que je suis pas bien grande. Donc, désolée. Bon, maintenant, il est trop bas. Mais on reprend, parce qu'on avait 5 minutes. Donc, Botanicula. Donc, c'est un super jeu. Mais, par contre, il faut savoir qu'il n'est qu'en 32 bits. Donc sur ma Debian, moi j'ai pas réussi hein, sur ma Debian 64 bits à installer une librairie en i386, la libnss3, voilà, celle-là j'arrivais pas à l'installer. Donc j'ai joué sur un vieux PC qui est lui en 32 bits et ça a tourné sans problème.
Ou alors dans une machine virtuelle. Prévenir, hein.
J'ai pas testé la machine virtuelle, ça m'a arrangé de jouer sur mon autre PC, hein. C'était pareil.
Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ?
Attends, juste comme ça, souvent sinon tu as des dépôts, alors je sais pas pour Debian mais Swark c'est ça, tu as des dépôts dits multilib qui te permettent d'avoir en fait les librairies 32 bits pour les archives 64.
La libnss pose d'énormes soucis en fait, c'est une lib qui sert...
Voilà, parce que les autres tu les avais.
Voilà, c'est la libnss pose aussi des soucis sur Arch Linux, j'ai eu aussi le problème.
Après j'ai pas cherché très longtemps, hein. J'avais un autre PC, j'ai fait ok je joue. Donc, en dehors de ça, moi, je le trouve très mignon. C'est un jeu, en fait, qui est... Donc, ça s'appelle Botanicula, je répète. Donc, c'est autour des plantes. C'est un univers très, très végétal. Et alors, je sais pas... voilà, je suis à la radio, donc forcément, j'ai plus rien à dire.
Alors, en quoi consiste le jeu ?
C'est un point and click.
Point and click.
Donc, c'est un point and click. Comme ça, c'est
cliquer,
bien.
Pointé.
Cliquer, pointé. Ouais. Donc, tu cliques et tu pointes et t'avances et tu résous des énigmes, on va dire ça comme ça. Donc, dans un univers comme ça, dans un arbre où il se passe plein de choses, il y a plein de petits personnages fantastiques. Enfin, c'est pas du tout réaliste, hein, c'est très poétique.
Oui, c'est plein Isa, de poésie. Ouais. Mais c'est un jeu qui a été fait par Amanita, qui est en fait une boîte de design qui avait
espagnol
fait, voilà j'aurais dit tchèque
ouais moi aussi tchèque hein, c'est plutôt tchèque ouais. Ou de là-bas de la
voilà et l'est. Oui pays de l'est on sait pas trop lequel
et chercher sur leur site mais je
qui ont fait Machinarium dont on avait déjà parlé à la radio qui est un jeu très très joli aussi sous forme de plutôt de BD on va dire
voilà c'est un jeu d'aventure en click and point
voilà, avec toujours. Un petit robot et avec toujours des énigmes, il faut quand même se creuser la cervelle hein, pour faire fonctionner tout ça. C'est assez varié en fait. Et donc voilà, Botanicula, c'est sur le même mode avec peut-être plus de couleurs, c'est plus joli.
C'est très chatoyant, oui.
Voilà.
Par contre, en termes d'énigmes et de creusage de tête, bon, je suis pas sûre qu'on y joue très très longtemps en tant qu'adulte. Enfin, moi, je ne saurais compter mon nombre d'heures de jeu parce que j'ai vraiment découpé.
Je sais pas, moi, je dois être une vraie gamine alors parce que moi, j'adore ce genre de jeu.
Moi, j'adore ça et j'étais très contente de jouer. Par contre, je me dis que pour des enfants, ça passe très bien. Enfin, parce que c'est pas si compliqué que ça.
Ça fait longtemps que j'ai joué à Botanicula, donc je me rappelle plus trop. Mais je me sens pas qu'il était si court que ça. Bah après, je sais pas, je l'ai joué sur Android, il y a des succès à faire, bon, c'est peut-être plus...
Oui, voilà, toi, t'as cherché le succès. Moi, j'ai pas gagné complètement tout... J'ai gagné le jeu, enfin, j'ai fini le jeu, j'ai réussi à sauver mes petits bonshommes. Mais non, j'avais pas découvert tout ce qu'il fallait découvrir dans le jeu. Ça sera pour ma prochaine partie.
Ceci étant dit, Machinarium est aussi assez court, en fait.
Oui, mais autant Machinarium, il me semble qu'effectivement, je l'avais trouvé plutôt court. Autant Botanicula, je ne me rappelle pas l'avoir trouvé aussi court que ça. Mais bon.
Mais je ne le trouve pas trop court non plus, hein, en rapport qualité-prix. Tout
mais
ça,
en
parce
général,
que
ce genre de jeu, c'est jamais super, super long. Hein, parce que justement, il y a beaucoup de travail sur le design, l'enrichissement est vraiment important. Donc, qui joue à des jeux un peu du même style comme The Room sur Android. C'est un peu la même chose, et c'est souvent la critique qui est faite, c'est que c'est trop court. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de
choses
de
à regarder.
Travail derrière.
Non, il est beau. Ouais.
C'est un petit peu normal, il me semble.
Après, je ne l'ai pas trouvé trop court. Hein. Ouais. En termes de temps de jeu, je l'ai trouvé très correct, mais après, je ne dirais pas qu'il est très long. Moi, je suis habituée, comme je vous ai dit, je n'ai pas joué depuis très longtemps. Et du coup, moi, les jeux auxquels je jouais, c'était Maniac Mansion, Day of Tentacle, enfin, ça remonte un peu. Où souvent, on était bloqué vraiment des heures et des heures et des heures et des heures avant de trouver la solution de l'énigme, parce que bon, c'était un peu tiré par les cheveux aussi.
Alors que là, finalement,
on comprend assez vite ce qu'il faut faire. Qu'on n'y arrive ou pas, mais on comprend.
Oui, en plus, c'est ce que je trouve bien fait, c'est qu'il n'y a pas de. C'est une histoire sans parole. Il y a toujours. Ça marche par onomatopée. Il y a la musique aussi qui intervient énormément dans le jeu.
Si on n'a pas la musique, oui, on rate des choses. Hein,
et il faut utiliser justement la musique pour certaines énigmes. Et dans le dernier qui est sorti, auquel j'ai joué, puisque je l'ai sur ma tablette, Samorost 3, parce qu'en fait, ils avaient déjà fait le 1 et le 2, mais qui n'étaient pas sur tous les supports qu'on peut avoir aujourd'hui, PC, Android, etc.
Et Samorost 3 n'est pas disponible sous Linux pour l'instant.
Et Samorost 3, moi, je l'ai sur Android, et il est vraiment magnifique. Il est très, très beau. Le design est vraiment toujours à la hauteur de ce que fait Amanita, mais en plus, je dirais, encore. Toujours pareil, avec des énigmes à résoudre, et c'est toujours un peu différent, c'est jamais vraiment la même chose. Puis même le bouquin qui t'aide à trouver les énigmes, lui-même, il est un peu énigmatique, tu vois, donc c'est vraiment tout un monde et c'est vraiment super. Je le recommande à tous ceux qui peuvent y avoir accès. C'était une petite pub pour Amanita au final.
Exactement. De toute façon, c'est effectivement leurs jeux sont tout plein de poésie. Leurs dessins, c'est beau, c'est très crayonné, c'est très très joli. Il y a des jolies animations, très poétiques. C'est beaucoup de onomatopées. Isa est en train de nous montrer. Du coup, mais on peut pas le faire à la radio. Une session
non,
de jeu.
Non, on mettra les biens.
Voilà. Merci beaucoup du coup pour cette petite intermède jeu. Ça va être le moment de se quitter. On va se dire au revoir. Il y a juste TGP a une petite annonce.
Oui, surtout.
Parce qu'on a oublié sur l'agenda.
Et voilà, on a oublié sur l'agenda du Libre tous les mercredis à 7h, enfin 19h, au Labix, c'est-à-dire 62 rue Fieffé dans la fabrique Pola, on organise un atelier. J'organise un atelier pour les artistes qui veulent passer au logiciel libre et essayer de relire toutes les problématiques de l'art, non plus tout à fait sous l'histoire de l'art telle qu'on la connaît, mais sous l'angle du hack, ce qui nous permettra de définir à la fois notre histoire de l'art à nous un peu et notre philosophie du hack. Voilà.
Alors, ça concerne quel type d'art? Tous les arts?
Tous.
Tous les lézards.
Et on a tellement et ça va loin. Il y a des gens qui n'étaient pas artistes du tout et qui viennent, comme des gens qui sont étudiants en art, comme des gens qui sont artistes professionnels. Et ça va, voilà. Et franchement, c'est très très chouette.
Merci beaucoup.
Okay, c'est cool.
De toute façon, ça serait sympa que tu nous en reparles peut-être un de ces quatre à la radio.
Oui, je viendrai vous en parler plus longuement.
Super, merci beaucoup. Super. On va vous souhaiter à tous une bonne soirée. On se retrouvera le 14 Bonsoir. Février à partir de 19h.
Saint-Valentin.
Ouais. On fera des câlins à FX pour fêter ça. Voilà, en tout cas, n'écoutez pas trop nos hommes politiques, ils disent beaucoup des conneries, ou alors si vous aimez en rire, vous pouvez les écouter. Nous, par contre, n'hésitez pas à nous écouter, même quand on n'est pas là en direct, il y a des choses qui se passent à la radio, notamment de la musique libre, c'est toujours sympa d'écouter un peu de musique libre. Et il y a aussi, peut-être, il faudrait qu'on demande à toi, nous, si il y a toujours des vieilles émissions qui traînent, voilà, c'est toujours sympa de nous réécouter, voilà, au cas où on vous manque, parce qu'une fois
sinon,
par mois...
Sinon, il y a les archives.
Voilà, les archives. Il y a aussi, oui...
Vachement voilà. Bien documenté.
C'est ça. Allez, bonne soirée à tous et merci de nous avoir écoutés.
Hé, petit champignon, t'as pensé à télécharger l'application Radio Girol sur ton téléphone mobile?
Ça s'appelle Radio Girol, c'est sur le bon sport.